Laudetur Jesus.
Attaque aérienne massive d'Israël contre l'Iran. Depuis la nuit dernière, l'aviation israélienne bombarde toujours les sites stratégiques nucléaires iraniens. Elle a aussi décapité le commandement de l'armée des gardiens de la révolution. Appel quasi unanime de la communauté internationale à la désescalade. On y revient juste après les titres. 100 milliards de dollars, c'est la somme que les 9 puissances nucléaires ont dépensé l'année dernière pour maintenir ou augmenter leur arsenal. C'est ce que dénonce l'ICAN, cette alliance mondiale d'ONG qui milite pour l'abolition de l'arme atomique. Le président du gouvernement espagnol exposait un scandale de corruption au sein de son parti, le Parti Socialiste. Mais Pedro Sanchez n'entend pas démissionner et convoquer de nouvelles élections. Floribert Buanachoui, béatifié dimanche à Rome, ce Congolais, martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, était également engagé auprès des enfants des rues, nous en témoignage de la responsable de la communauté de Sant'Egidio Goma, dont il faisait partie.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, une déclaration de guerre d'Israël à l'Iran, selon les termes iraniens. Après les frappes massives de la nuit dernière, de nouvelles attaques contre des sites nucléaires iraniens sont actuellement en cours. Celui de Natanz, dans le centre du pays, en est l'épicentre. Un aéroport du nord-ouest du pays est en flammes. À deux jours de pourparlers américano-iraniens sur le nucléaire, à Oman, l'opération israélienne Delphine Allaire est partie cependant pour durer.
Oui, Xavier, les attaques continuent de sens. Avions israéliens ont visé une centaine de cibles, indique l'armée israélienne qui a neutralisé la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la révolution. Son chef Hossein Salami a été lui tué dans la nuit, de même que le chef d'état-major des armées et 6 experts nucléaires travaillant sur ce site d'enrichissement d'uranium. De ce site en particulier, ses installations souterraines a été visée plusieurs fois depuis le début de l'opération cette nuit. Les dégâts y restent en surface, affirment les Iraniens. En revanche, le pays déplore 95 blessés à travers tout l'Iran. C'est une déclaration de guerre écrite dans sa lettre aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique. Pour l'État hébreu, l'Iran s'approchait du point de non-retour vers la bombe atomique. Résultat, l'Iran envoie des drones sur Israël et justifie avec d'autant plus de véhémence sa volonté d'enrichir donc de l'uranium sa technologie nucléaire et ses capacités balistiques.
Le régime iranien menace aussi, Delphine, ceux avec qui il devait discuter ce dimanche à Oman, les États-Unis.
Oui, ils seront responsables des conséquences de l'attaque israélienne, prévient le régime iranien qui ne croit rien de la non-implication officielle américaine. Le président Trump tente à présent de maintenir à une négociation prévue dimanche d'en faire une monnaie d'échange pour forcer l'Iran à un accord. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump met en garde contre de prochaines attaques israéliennes encore plus brutales. Il faut un accord avant qu'il ne reste plus rien, écrit le président américain, confiant avoir tout essayé avec l'Iran. Il réunit tout à l'heure à la Maison Blanche son conseil de sécurité nationale. Ce sera à 17h de Rome.
Delphine Allaire. Mais les réactions dans le monde se multiplient depuis ce matin. À la plupart pour rappeler au calme et à la désescalade, pour condamner ces attaques israéliennes, à l'exception en Europe, de la République tchèque qui estime qu'Israël a le droit légitime de se défendre face à la menace iranienne. Les chancelleries s'activent donc. Les dirigeants britanniques, français et allemands sont ainsi en train de s'entretenir. Le pape, en recevant ce matin le président libanais Joseph Aoun, a souligné par ailleurs le besoin nécessaire et inévitable de favoriser la pacification de l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Les liaisons aériennes de plusieurs compagnies sont-elles suspendues vers Tel Aviv ou l'Iran? Nul ne sait pour l'instant, en effet, à combien de temps cette situation durera. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Avec l'ouverture de ce nouveau front, la guerre dans la bande de Gaza semble passer au second plan. Une bande de Gaza coupée du monde depuis que la dernière ligne de fibre optique encore en service a été coupée hier. Le ministère palestinien des télécommunications indique que les réseaux de téléphonie et d'internet sont hors service. Concernant le sort de la population affamée par manque d'aide humanitaire bloquée par Israël, l'ONU dénonce pour sa part l'échec du travail de la Fondation humanitaire pour Gaza, cette ONG soutenue par Israël et les États-Unis. C'est un sujet d'attention majeure pour le Saint-Siège, attentif au développement plutôt qu'au réarmement. Les dépenses des 9 puissances nucléaires dans le monde ont franchi pour la première fois en 2024 la barre des 100 milliards de dollars. C'est plus 9 milliards sur un an et la moitié concerne les États-Unis. Le constat émane du rapport annuel émis aujourd'hui par la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cette coalition d'ONG qui siège à Genève fut lauréate du Nobel de la paix en 2017. Jean-Marie Collin, son directeur pour la France, également chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, revient sur l'évolution récente et donc sur la hausse de ses dépenses.
Tous ces États, aujourd'hui, sont engagés dans une seule chose, qui est la pérennisation de leurs arsenaux nucléaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si ça a joué, bien sûr, dessus, tous ces États ont planifié des programmes de renouvellement et de modernisation de leurs arsenaux nucléaires bien avant le second conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire 2022. Les décisions, par exemple, qui ont été prises pour la France de programmes pour moderniser des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ont été prises au cours des années 2010, donc on le voit hein, en termes d'échéancier calendaire. Parce que d'ores et déjà, ils avaient cette vision d'une vision à long terme sur les armes nucléaires et de ne pas donner de chance finalement au désarmement nucléaire. Et c'est ce qui explique aussi la volonté d'une écrasante majorité du monde, parce qu'il faut aussi le rappeler, d'une part, de ne pas se doter d'armes nucléaires, mais surtout d'avoir commencé à agir dès 2017 en travaillant à l'adoption d'un traité sur les armes nucléaires, hein, le TIAN, qui est entré en vigueur en 2021. Donc on a aussi cette rupture qui s'est créée où on a une pression de la part de ceux qui ne possèdent pas ces armes nucléaires pour essayer d'engager ceux qui les possèdent à revenir à une réalité internationale puisque bien évidemment il faut aussi en avoir conscience. En cas d'emploi volontaire ou involontaire, c'est bien un changement de société humaine auquel on serait totalement confronté.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Le Premier ministre espagnol en pleine turbulence. Pedro Sanchez fait face en effet à un scandale de corruption qui a pris une nouvelle tournure après la mise en examen hier pour corruption du numéro 3 de son parti, le PSOE, le dirigeant socialiste, a présenté ses excuses, mais exclu des élections anticipées. Les précisions à Barcelone de Luis Marsans.
Le visage fermé, l'air grave, Pedro Sanchez a demandé pardon hier soir aux Espagnols. Quelques heures plus tôt, un rapport de police révélait la possible participation de Santos Cerda, numéro 3 du Parti Socialiste, dans l'attribution indue d'un contrat public pour laquelle il aurait touché de l'argent. Nous n'aurions pas dû lui faire confiance, indiquait le Premier ministre socialiste à propos de celui qui était considéré comme l'homme des dossiers délicats au sein du parti. Santos Cerda a démissionné hier de toutes ses fonctions, mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour faire retomber la pression sur Pedro Sanchez qui, après avoir présenté ses excuses, indiquait qu'il ignorait tout des agissements de son camarade socialiste. Il a ensuite exclu la possibilité de convoquer des élections anticipées. L'opposition de droite réclame le départ de Pedro Sanchez et des élections au plus vite. Les ennuis s'accumulent pour le socialiste. Sa femme est déjà mise en cause dans une affaire de corruption et son frère sera bientôt jugé pour trafic d'influence. Au pouvoir depuis 2018, difficile de dire si Pedro Sanchez parviendra à résister à cette nouvelle tempête. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
C'est dimanche en la basilique Saint-Paul-Orlémur à Rome que sera béatifié Floribert Buanachui, un Congolais tué en 2007 car il refusait d'être corrompu. En novembre 2024, le pape François l'a reconnu martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Un membre de la communauté Sant'Egidio, ce jeune homme œuvrait également auprès des enfants des rues. Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma, revient sur cet engagement de Floribert.
Je dirais ce que je garde de Floribert comme quelqu'un qui voulait servir, pour qui toutes les vies comptaient, même ceux des enfants de la rue, les enfants qui ne sont pas reconnus même par la société, mais ce sont ces enfants-là que Floribert prenait soin, il les protégeait du danger. Je peux témoigner l'exemple de Jonathan, un enfant de la rue qui était venu de Bukavu, il jouait dans le bateau, et puis du coup le bateau a pris le large et puis s'est retrouvé le matin à Goma, sans famille, sans personne, il ne connaissait même pas cette ville, il a rencontré Floribert. Et comme il s'est senti responsable de la vie de ce jeune garçon Jonathan, et par après Floribert, il a cherché la famille de Jonathan à Bukavu. Il a pu retrouver la famille et puis il a ramené Jonathan dans sa famille. Jonathan, lui, quand il parlait de Floribert, il dit que j'ai compris que c'était un ange que Dieu m'avait envoyé pour me sauver de la rue. Il voulait voir tout le monde ensemble et il disait toujours, il rêve d'un Congo où tous seront assis sur une même table. C'est quelqu'un qui voulait voir tout le monde errer autour de lui.
Des propos recueillis par Stanislas Kambashi, retrouvés sur notre site internet. C'est une date qui était attendue depuis plusieurs semaines, celle de la canonisation des jeunes Italiens Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Elle aura lieu le dimanche 7 septembre, annonce faite à l'issue du premier consistoire ordinaire public de Lyon 14 ce matin. Sept autres bienheureux seront eux canonisés le 19 octobre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome, d'ici à notre site internet ou notre excellente journée à toutes et à tous.